Place publique.
Le constat de quoi interpeller d'ici ces trois prochaines années, 75 000 entreprises en Suisse seront à transmettre. 400 000 emplois sont en jeu, une conséquence du vieillissement de la population et donc du vieillissement des patrons. Mais la relève n'est pas facile à trouver, plus d'un tiers des PME disparaissent faute de repreneurs. Alors pourquoi tant de difficultés à trouver des patrons, comment y remédier? Des questions posées cette semaine par les journées romandes des arts et métiers qui ont réuni 120 dirigeants d'entreprises à Champéry, lundi et mardi. Place publique, on profite pour vous proposer ce soir une émission spéciale consacrée justement à la transmission d'entreprise avec plusieurs invités, notamment Laurence Parisot, porte-voix des patrons français entre 2005 et 2013, qui nous rejoindra en direct tout à l'heure.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous, le plaisir d'accueillir tout d'abord nos deux premiers invités, Aurélie Bovigny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialisée en transmission d'entreprise pour la société Business Broker. Avec nous également, Patrick Linder. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la Chambre d'économie publique du Jura bernois. Alors, avec vous deux, on va tenter de mieux comprendre les enjeux de la transmission d'entreprise. Aurélie Bovigny, on parle de l'avenir incertain pour des dizaines de milliers de PME en cause, la fin d'une génération de patrons.
Oui, effectivement, c'est un constat que plusieurs spécialistes font sur le marché. On a la génération des baby boomers qui était vraiment dotée d'un fort caractère entrepreneurial qui arrive à la retraite. Et puis c'est vrai que maintenant, il faut s'assurer d'une certaine passation à la nouvelle génération.
Alors il y a le problème de l'âge des patrons, mais il y a aussi un autre problème plus profond cette fois-ci, c'est que les repreneuses et les repreneurs ne se pressent pas au portillon. Hein. Être patron, ça fait plus forcément rêver les jeunes.
Alors, je dirais qu'il y a un certain panel de repreneurs, mais c'est vrai que dans les entreprises familiales, on se rend compte que la relève, elle se trouve pas forcément au sein des descendants des patrons qui vont partir à la retraite. On a ces enfants qui ont peut-être des soifs dans d'autres ambitions de carrière, qui n'ont pas forcément les moyens financiers, et puis qui se tournent vers d'autres horizons.
Et pourtant, l'espérance de vie d'une entreprise existante est plus grande qu'une start-up. Hein. C'est moins risqué de reprendre l'entreprise des parents.
Effectivement, les statistiques, elles sont aussi assez claires à ce niveau-là. On a effectivement un taux de succès après 5 ans de reprise d'une entreprise existante qui est bien plus élevé que la création d'une start-up, effectivement.
Patrick, on a un modèle, vous dites?
Je dis, c'est grâce au fait qu'il y a un modèle d'affaires qui est existant, qui est connu sur le marché, il y a une clientèle qu'elle a, donc c'est vrai que c'est un peu plus, c'est moins risqué que de créer à nouveau.
Patrick Linder, vous qui êtes en contact rapproché hein, avec des centaines de patrons dans le Jura bernois, est-ce que vous avez l'impression que la question de la transmission, de la relève est prise au sérieux? Est-ce que c'est vraiment un problème?
C'est une problématique fondamentale, préoccupante, de longue date. Il y a d'ailleurs pléthore d'occasions de le rappeler, puisqu'il faut quand même le préciser, c'est un business, la transmission d'entreprise. Donc il y a toute une série d'événements de sensibilisation, d'actions qui poussent les patrons à penser à transmettre leur entreprise. Il faut avant tout rappeler que c'est une procédure qui prend du temps. Ça se déroule pas du jour au lendemain. Remettre son entreprise, c'est aussi remettre un patrimoine, c'est parfois remettre l'œuvre d'une vie. Puis il faut trouver un repreneur, donc un temps long. Et pour une problématique qui est absolument aiguë, eu égard à la structure industrielle de l'arc jurassien, qui est, vous le savez, majoritairement composée de petites et moyennes entreprises, souvent possédées encore par des familles, donc particulièrement susceptibles d'être remises et transmises.
Donc c'est un business, on l'a bien compris, c'est aussi un enjeu. Hein. Vous-même, par exemple, à la CEP, vous avez mis en place des cours. Est-ce que ça a du succès? Est-ce que vous sentez les patrons ouverts à entrer dans la démarche?
La particularité structurelle de notre région nous engageait à le faire, confronté également aux paramètres démographiques qui étaient commentés avant, on s'est rendu compte qu'il fallait agir. La sensibilisation n'était pas suffisante, on a donc proposé il y a 3 ans un coaching de succession qui avait pour but de guider dans les premiers pas de démarches qui sont complexes, qui touchent à plusieurs dimensions, économiques, juridiques, bancaires. Il faut conduire un certain nombre d'actions sur son entreprise, sur son entreprise et sur son patrimoine pour être capable de la remettre. Le but, c'était de donner un petit guide, une première orientation. C'est une réponse modeste, mais nécessaire à une problématique pour laquelle plusieurs patrons sont souvent démunis.
Est-ce qu'ils étaient nombreux à ce cours?
Alors, c'est extrêmement difficile d'intéresser les entreprises à s'engager dans cette démarche, puisque dès la première manifestation, la première visibilité, y a des questions qui se posent. On se dit qu'une entreprise est à remettre, donc elle peut perdre des clients. Ça peut mettre en question son modèle d'affaires, ça peut mettre en question son organisation productive. Donc il y a beaucoup de secrets, beaucoup de confidentialité qui tournent autour de cette démarche. Et donc, ce n'est pas encore un succès. Il faut qu'on y travaille pour être en mesure d'offrir un outil, je dirais, neutre qui permet de se faire une idée de la procédure.
Aurélie Bovigny, on l'entend, hein, c'est un processus long, complexe et aussi très délicat, avec un haut degré de confidentialité et de risque, hein, pour les clients. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui freine le processus et qui dissuade par effet de cause à effet les patrons à prendre de l'avance et à anticiper?
Oui, je pense qu'effectivement, la notion de confidentialité et de discrétion, elle est un frein effectivement à ces démarches. Je pense aussi que les patrons, ils ont un petit peu la tête dans le guidon, ils gèrent les affaires au quotidien et puis, vu la dimension émotionnelle que cela comporte, ils préfèrent mettre la problématique liée à leur propre succession un petit peu de côté et ils sous-estiment effectivement ces aspects techniques qui doivent être mis en place.
Vous parlez de l'aspect émotionnel, hein. L'aspect émotionnel, surtout dans les entreprises familiales, vous l'avez dit, c'est là qu'il y a le plus de soucis. C'est évidemment très difficile, on imagine, pour un patron déjà de lâcher et en plus d'imaginer que son entreprise va arriver dans d'autres mains que dans celles de sa famille.
Effectivement, souvent c'est un aboutissement assez logique pour le propriétaire qui va céder son entreprise, de remettre à ses enfants ou bien au cadre qu'il a à l'interne de l'entreprise, sans même avoir ouvert la discussion avec les parties concernées. Donc c'est vrai, quand il est confronté après à la réalité et qu'il constate qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, de compétences ou de moyens de la part de ces personnes-là, il va devoir accepter effectivement de se tourner vers une solution à l'externe.
On a parlé d'un processus long, c'est quoi? C'est 10 ans? Si on ne s'y est pas pris 10 ans à l'avance, c'est qu'on est en retard?
Alors effectivement, on parle d'une période entre 5 et 10 ans. L'idée, c'est plus on commence tôt à anticiper cette problématique, plus on arrive à préparer et à optimiser la structure de l'entreprise en soi pour une passation de témoin. Je pense là, par exemple, à la notion de délégation de certaines responsabilités pour limiter ou diminuer la dépendance de l'entreprise face à son patron. Il y a la notion aussi de préparation et documentation de tous les processus internes qui facilitera la transition. Et si on s'y prend aussi quelques années à l'avance, on a aussi la possibilité d'optimiser tout ce qui est des aspects comptables, fiscaux, juridiques, etc. Donc, plus on anticipe, plus on met des chances de son côté d'optimiser cette transmission.
Et de votre côté, sur le terrain, quelles sont les principales causes d'échecs qui font que certaines entreprises, même en s'y prenant peut-être assez tôt, n'y arrivent pas? Il y a ce chiffre qui interpelle, 30 à 40% des entreprises qui cherchent de la relève n'en trouvent pas et disparaissent.
Alors, je pense que là, il y a deux facteurs supplémentaires à la notion de l'anticipation. C'est le fait que les patrons, souvent, ils essayent par eux-mêmes, par leurs propres moyens, par leurs propres contacts, et ils échouent parce qu'effectivement, il y a toute cette complexité technique qui entre en ligne de compte, mais le fait de se retrouver seul face à un potentiel acquéreur, ça peut être aussi déstabilisant. Et puis, au-delà de ça, il y a souvent aussi des attentes un petit peu surréalistes au niveau des prix de vente, des conditions qu'on peut demander aux acquéreurs, qui fait qu'on n'arrive pas à aboutir avec succès à la transmission de sa société.
Patrick Linder, ça vous fait sourire ?
Non, évidemment, il y a des cas dramatiques de transmission qui sont manqués. Il faudrait confronter le nombre d'entreprises qui sont à remettre au nombre d'entreprises qui sont créées, puisque face notamment à un système de production interdépendant tel que celui qu'on connaît dans l'arc jurassien, parfois quand une entreprise disparaît, c'est des business qui se transmettent et qui renaissent sous l'ensemble. Le concept peut-être pas aussi sombre. Cependant, il y a évidemment des exemples qui sont extrêmement déplorables. Il faut en plus cibler sur la dimension stratégique que remet la transmission des entreprises clés, hein, pour les compétences de la région. Il y a quand même des capitaux qui tournent et qui cherchent à investir dans les entreprises suisses. Il y a des pays qui développent des stratégies à ce niveau-là. Donc, être capable de remettre son entreprise, c'est aussi préserver un ensemble de compétences en Suisse et pour les Suisses. Et ça, c'est un élément qui doit être souligné.
Place publique.
Et on retrouve nos deux invités pour parler de transmission d'entreprise, puisque à l'horizon des 3 prochaines années, eh bien 75 000 PME en Suisse seront confrontées à la problématique de la relève. Aurélie Bovigny, On le sait, grâce à des études, mais aussi grâce aux renseignements du terrain, et vous le savez puisque vous travaillez dans le domaine, même si des patrons d'entreprises, par exemple familiales, espèrent remettre cette entreprise à l'interne, soit à un membre de la famille, soit à un collaborateur ou une collaboratrice, eh bien c'est souvent un acquéreur externe qui l'emporte. Pour quelle raison ?
Alors, je pense que là, on peut mettre en avant effectivement la notion de trouver la personne qui a les compétences financières et managériales. Et j'ai l'impression que quand on s'oriente à l'interne, on a peut-être ces problématiques à ce niveau-là. On a eu l'exemple récemment d'un client qui nous a abordé pour transmettre son entreprise dans le domaine de la construction. Il avait effectivement tout mis en œuvre pour permettre à ses cadres de se profiler dans la reprise de la direction et de la propriété de l'entreprise. Il les a accompagnés dans la demande de financement, mais finalement les personnes en question ne se sont pas senties capables, n'ont pas voulu endosser ce rôle plein de responsabilités, et puis finalement il a dû se tourner vers l'externe, et ça c'est un cas de figure qu'on constate assez régulièrement dans la pratique.
Derrière ce mot externe, ça veut dire quoi ? Beaucoup de PME risquent de passer en main étrangère ces prochaines années. Le drapeau chinois va par exemple flotter sur beaucoup de toits d'entreprise ces 10 prochaines années.
Alors quand je pense à l'externe, je pense pas absolument à la notion de provenance étrangère. C'est tout simplement quelqu'un qui serait pas du tout impliqué dans l'entreprise, qui viendrait comme acquéreur et qui reprendrait le capital de la société. On a une demande grandissante effectivement de la part des pays étrangers, surtout des pays limitrophes, maintenant pour aller chercher des acquéreurs plus loin sur le territoire asiatique par exemple. Il faut s'orienter vraiment vers des grandes sociétés. Je pense que le tissu économique avec les plutôt petites PME n'est pas forcément un marché intéressant. Donc là c'est vraiment deux ordres de grandeur qui sont à mon avis assez différentes.
Patrick Linder, comment vous voyez l'avenir du tissu économique par rapport à cet enjeu de la transmission ? Est-ce que vous voyez des capitaux, vous parliez de capitaux qui circulaient, des capitaux étrangers qui risquent de prendre le pouvoir de beaucoup d'entreprises dans la région ?
Oui. Avec des velléités d'investissement dans des domaines stratégiques, ou en tout cas extrêmement importants pour le fonctionnement du système interdépendant duquel on parlait. Il faut rappeler que ce système de production microtechnique à peu près 150 ans, il a pu survivre grâce à sa capacité d'adaptation et notamment par le fait que des acteurs économiques étaient remplacés par de nouveaux arrivants sur la scène. Le processus aujourd'hui problématique de la transmission des entreprises qui sont à remettre peut trouver une forme de réponse dans cette capacité de résilience du système. Mais il y a aujourd'hui, je pense, une question de culture à questionner, la culture de l'entrepreneur, la culture de la prise de risque. Il y a une génération qui a peut-être été un tout petit peu sacrifiée sur l'autel de la terrestrialisation des activités dans les années 80 et au début des années 90. Et ça, aujourd'hui, a un impact déterminant sur la volonté des jeunes entrepreneurs potentiels entre 25 et 40 ans de s'engager. C'est pas forcément une culture qui a été clairement implantée dans leur esprit. Il faut aujourd'hui la revaloriser.
Eh bien, on retient en tout cas cette conviction qui est la vôtre, selon laquelle l'économie a horreur du vide et que l'innovation permettra sans doute de permettre de nouvelles entreprises de voir le jour si certaines PME devaient être amenées à disparaître. En tout cas, merci à tous les deux, Aurélie Bovigny et Patrick Linder, d'être venus dans Place Publique pour poser le décor de cette problématique, la transmission d'entreprise. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans Place Publique.
Merci.
Bonne soirée. Merci.
Bonne soirée.
L'Inforoute partout avec vous, sur le web et sur smartphone. Cliquez Inforoute.
En ville de Neuchâtel, un véhicule est en panne au giratoire de Vaucéillon et provoque des bouchons, notamment sur l'autoroute Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds dans l'échangeur de Vaucéillon. Prudence donc dans ce secteur.
Place publique. La transmission d'entreprise, c'est un enjeu pour près de 75 000 PME ces trois prochaines années en Suisse. Autant dire que le défi est de taille. Et autant dire aussi que beaucoup de patrons en quête de relève espèrent sûrement vivre le même scénario que celui vécu par le jurassien Charles Rera, fondateur de Recomatic en 1962. 40 ans plus tard, l'entrepreneur a pu remettre les clés de la société à deux de ses fils. L'un d'eux est Christophe Rera, aujourd'hui âgé de 47 ans. L'homme a fait son premier apprentissage dans l'entreprise familiale comme mécanicien de précision. Et depuis 2002, il la co-dirige avec son frère Philippe. Depuis, le groupe Recomatic, actif dans l'horlogerie et la joaillerie, a vu le nombre d'employés quadrupler. Et même si cette histoire sonne comme une réussite cousue de fil blanc, rien n'aurait été possible sans une forme de courage, mais aussi sans volonté ou de l'anticipation. Christophe Rera tire avec nous les enseignements de son histoire.
Je pense qu'il faut être un petit peu proactif. C'est se rendre compte que les choses vont vite, la vie va très vite. Et puis je pense qu'il faut préparer ces choses-là. Et puis je pense qu'avec mon frère, vu qu'on l'a vécu du côté familial, c'est de le prévoir pour la troisième génération ou la troisième équipe qui reprendra la société.
Ça veut dire que vous avez grandi dans cet univers. Votre père a fondé l'entreprise Recomatic dans les années 60. Vous avez grandi et tout de suite su qu'un jour vous prendriez la direction de Recomatic. Comment s'est passée cette transmission? Ça a l'air tout facile.
C'était pas tout à fait ça, c'était pas si facile que ça. Je me destinais pas du tout à ça, mais voilà, les choses se sont faites, disons, de manière naturelle, en ayant fait l'apprentissage au sein de la société. Mon frère a suivi à peu près le même parcours. Et puis, on s'est imprégné de cette entreprise, on a aimé cette entreprise, et puis on se sentait les reins, mon frère et moi, à reprendre et à développer la société.
Ça se passe pas aussi bien partout. D'ailleurs, il y a une vraie problématique autour de la transmission d'entreprise. Comment votre père a réussi pour vous faire envie de vous projeter à sa place?
De nous engueuler déjà. Surtout, c'est un métier qui nous a passionnés. C'est un métier qui nous a passionnés. On est passé par plusieurs étapes. On a vécu tout l'assemblage de la machine, on a usiné les pièces, on a monté les machines, on a fait du service après-vente sur les machines. Et puis, ce produit qui est particulier nous a vraiment plu, moi, mon frère et à moi, puis on avait vraiment une idée de ce qu'on voulait en faire, quoi.
Comment ça se fait que l'harmonie règne? On imagine aussi que la transmission d'entreprise, ça se fait pas forcément de manière aussi simple, qu'il y a parfois des conflits entre frères et sœurs qui veulent être logés à la même enseigne, avoir les mêmes parts du gâteau.
Alors, mon père a pris 4 ans pour prendre la décision au niveau de la remise de la société. Donc, il avait fait 3 parts égales. Et puis, directement, dans la suite, mon frère et moi, on a racheté la part à ma sœur. Donc, tout avait été fait et discuté avant d'arriver à la réalité. Et puis, vu qu'on était les deux investis dans la société et ma sœur ne y était pas, c'était presque naturellement qu'elle a vendu ses parts pour que mon frère et moi, nous soyons les deux actionnaires de la société.
Et de la part des employés, alors il y en avait moins qu'aujourd'hui, on va parler du développement de Recomatic. Du point de vue des employés, est-ce que ça a été bien accepté?
Alors, ça a été bien accepté du fait que des employés, moi j'ai été employé avec une bonne partie des employés qui sont encore là actuellement, et puis ils ont vu les choses se passer, je vous le répète peut-être, mais de manière naturelle. J'entends, en passant toutes les étapes de la société, en montrant qu'on avait les capacités de piloter la société, je trouve que ça s'est très bien passé et le respect a toujours été là et ça a toujours bien fonctionné.
Christophe Rera, alors bien accepté par les employés qui étaient vos collègues pour la plupart, qu'en est-il des clients? On imagine que là les attentes sont quand même très élevées.
Au niveau des clients, c'est important. Ils doivent se rassurer. Quand ils viennent acheter une machine chez nous, ils doivent savoir que dans 10 ans, l'entreprise sera encore là et qu'on aura encore du service sur les machines qu'ils vont acheter. Donc c'est important qu'ils voient que derrière, on ait déjà pensé à la suite et qu'ils soient rassurés en disant on continue de travailler avec cette société, elle est saine, elle pense au futur et elle a déjà une idée d'où ira Recomatic.
Malgré tout, vous le dites, il aurait peut-être fallu même s'y prendre encore plus à l'avance que ce qui a été fait. On en a perdu quand même 2-3 en route. C'est inévitable.
On en a peut-être perdu 2-3 en route, mais on a montré avec nos compétences, c'est sûrement des gens qui sont revenus, et c'est des clients qui sont revenus. Donc on a sécurisé les choses, et puis avec notre savoir-faire, avec notre engineering, on a montré encore de nouvelles compétences.
Christophe Rera, est-ce que vous avez l'impression que vous avez dû aussi dépasser le modèle paternel, symboliquement tuer le père, pour vous affirmer et faire de cette entreprise une entreprise à votre image?
Je pense que ça a été le cas. C'est clair que ce saut de génération, c'est aussi un saut de culture et puis c'est un saut d'innovation. Donc on est passé par l'étape mécanique en arrivant à l'étape numérique. Et puis c'est passé par ce saut et cette école qu'on a appris. Tuer le père, je ne dirais pas que c'est le mot juste, mais on a poussé mon père à faire des choix. Le fait d'avoir l'appui de mon frère, c'était important. Je pense qu'à deux, on a pu influencer aussi et puis peut-être peu à peu accélérer cette passation au niveau de la société.
Qu'est-ce qui a été le changement le plus important que votre père a dû accepter?
Nous faire confiance. Donc c'est passé aussi par cette partie, à mon avis, la plus importante, lui montrer qu'on avait les qualités et puis qu'on était capable de diriger la société pour développer le business. Et puis le saut technologique. Donc c'était aussi une part importante que lui ne connaissait pas, et ce saut technologique a fait que Récomatic pouvait se développer plus rapidement et dans beaucoup de domaines d'activité plus importants.
Donc vous avez agrandi l'entreprise, il y a plus de monde qui travaille, vous avez aussi accru le chiffre d'affaires, vous vous êtes diversifié, c'est quand même des choix stratégiques très importants.
Alors, tout à fait, la diversification, je pense que c'est une partie très très importante pour nous. Trouver un équilibre avec différentes industries qui vont plus ou moins bien dans leur cercle de vie, et puis si une industrie va moins bien, une autre va mieux, et c'est de trouver l'équilibre au niveau financier en gardant tout notre personnel.
Vous ne vous êtes pas cantonné à l'horlogerie ?
On ne s'est pas cantonné à l'horlogerie, on travaille sur tous les secteurs du médical et de l'aéronautique, en travaillant sur de nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies, je pense, aideront dans le futur aussi le domaine de l'horlogerie, qui est notre domaine phare.
Alors, vous avez repris cette entreprise en 2002 avec votre frère, et 16 ans plus tard, vous pensez déjà à transmettre cette entreprise. Ça prend quelle forme ? Comment on prépare, même si ce n'est pas pour tout de suite, comment on prépare une transmission ?
On a incorporé depuis cette année une personne à notre conseil d'administration qui a un œil neuf sur la société. Donc, on s'est donné 2 ans pour que cette personne s'imprègne un petit peu du fonctionnement de Récomatic, de voir comment on travaille. Et puis, après ces 2 ans, on se dira, ben voilà, où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis, comment seront les choses pour la suite. Donc, cet œil neuf, à notre avis, est important. On a peut-être trop la tête dans le guidon, on ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe à côté.
Ça veut dire que vous n'avez pas forcément dans le viseur des enfants qui pourraient reprendre le business un jour ?
C'est tout à fait possible. Mon frère et moi, nous avons chacun 2 filles. Elles sont encore jeunes, donc je ne sais pas dans 5, 10 ans où elles seront, ce qu'elles feront. On ne veut pas être là pour influencer leur choix. Elles doivent vivre leur propre choix au niveau de la formation, et puis pas que ça soit une partie qui puisse influencer leur choix de carrière.
Mais à ce qu'on entend quand on parle avec des patrons, on a l'impression que l'enfance joue un très grand rôle, l'éducation. On est éduqué à devenir entrepreneur. Est-ce que par petites touches, même sans forcément s'en rendre compte, vous éduquez vos filles à devenir plus tard chef d'entreprise ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Elles se rendent compte de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Elles se rendent très bien compte de ce qu'on fait parce qu'on n'est pas souvent à la maison. Donc, je ne sais pas si c'est une leçon, une manière d'éduquer nos enfants, mais ça montre peut-être plutôt une contrainte. C'est-à-dire qu'on n'est pas très disponible.
Donc, vous pensez que pour l'instant, le modèle que vous donnez à voir à vos filles n'est pas forcément le modèle le plus enviable pour elles ?
Je pense que ce n'est pas le modèle le plus enviable. Et puis, comme on l'a vu dans cette journée, il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle qui rêvent d'être chef d'entreprise. On a l'impression qu'il y a plus de contraintes que de choses positives, quoi.
Mais comment vous l'expliquez ? Alors que vous, ça vous a fait envie très tôt, que vous ne regrettez apparemment pas votre choix. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tant d'entreprises soient en danger parce qu'on manque d'entrepreneurs en puissance ?
C'est peut-être le mode de vie qui a évolué. On a besoin de plus de liberté, on a des portes qui sont ouvertes dans beaucoup de choses, et puis le panel des possibilités, des choix est énorme. Donc on voyage facilement, on fait le tour du monde facilement. Donc de rester au même endroit, de travailler au même endroit, d'avoir plus, comme je vous l'ai dit, de contraintes que de positifs, ben, ce n'est pas nécessairement un monde qui fait rêver. Et puis je pense que les jeunes n'ont pas nécessairement encore cette fibre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui viendra. Est-ce qu'il faut que ça vienne à l'école ? Est-ce qu'il faut que ça vienne dans les études supérieures ? Il y aura peut-être un créneau à développer avec la formation d'entrepreneurs.
Christopher Rera, un entretien réalisé lundi à Champéry en marge des journées romandes des arts et métiers. Notez que tout va pour le mieux pour le groupe Récomatic, dont le projet d'agrandissement à Courtedoux semble sur de bons rails. De nouveaux bâtiments de 1500 et 500 mètres carrés devraient sortir de terre dans le courant de l'année prochaine, avec des emplois supplémentaires à la clé.
Place publique.
On continue dans Place publique avec l'immense plaisir d'accueillir Laurence Parisot avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une voix qui compte en France puisque vous avez dirigé l'Institut de sondage IFOP durant de nombreuses années. Vous avez aussi présidé la principale organisation patronale du pays, le MEDEF. C'était entre 2005 et 2013. Alors vous avez entendu une partie du témoignage de Christophe Rera, peut-être une réaction face à cette histoire de transmission qui a bien marché et qui devrait vous toucher, vous qui êtes né dans une entreprise, on peut le dire, en Franche-Comté.
Oui, tout à fait. J'ai entendu ce témoignage avec beaucoup d'émotion. Il me semble que c'est une belle histoire que ce chef d'entreprise a racontée. Je pense aussi qu'il sous-estime peut-être ce qu'il est en train de transmettre sans s'en rendre compte à ses filles. Et vous savez, en fait, quand on est dans une famille entrepreneuriale, ce sont les bribes de conversation, les remarques, les joies, les inquiétudes qui sont des occasions d'apprendre, les charmes et les difficultés de la vie du chef d'entreprise. Donc moi, je suis bien certaine que les filles de ce monsieur comprennent déjà ce dont il s'agit et que peut-être elles en auront envie plus tard.
Place publique.
Je crois que le réseau mobile est de meilleure humeur, de meilleure qualité. Alors vous nous parliez de l'importance en fait pour la transmission d'entreprise que les enfants soient quelque part socialisés, initiés de manière même informelle à la réalité de l'entreprise. On a quand même l'impression que les jeunes générations rêvent un peu d'autre chose, de modèles alternatifs. En quoi selon vous, Laurence Parisot, la PME, la petite et moyenne entreprise est un modèle d'avenir?
Ce que je pense, c'est que vous avez une nouvelle génération qui est d'abord séduite par les startups et qui ont envie de créer leur propre entreprise. Et c'est une des difficultés. Ils ont moins envie peut-être de reprendre une ancienne entreprise parce que c'est à leurs yeux un modèle peut-être obsolète. Et il y a en revanche le désir d'inventer. Donc je crois que, alors que nous sommes en Suisse et en France, c'est la même chose, confrontés à des enjeux massifs de transmission, il faut aussi faire passer le message, notamment dans les grandes écoles, les écoles de commerce, ou auprès de toutes les populations qui s'intéressent à l'entreprise, pour faire passer le message que quand on reprend une entreprise, on peut finalement l'aborder comme si on créait sa start-up. Parce que, le témoignage du chef d'entreprise que vous avez recueilli le montre bien, au moment du passage d'une génération, on réinvente beaucoup de choses. On réinvente le business model, on réinvente le produit, on réinvente le service, on réinvente le marketing et la communication. Donc il faudrait essayer de penser la transmission et la reprise comme une forme de start-up. Je pense que ça aiderait beaucoup à attirer les nouvelles générations.
Pour vous, la PME, c'est l'avenir, encore une fois. Vous avez même eu un slogan, créé un slogan, la PME attitude. Vous plaidez pour la PME parce qu'elle est plus proche de la réalité du terrain.
Moi, je pense que la PME, entreprise de taille modeste, d'abord offre des satisfactions comme on en a pas autant ailleurs, car vous êtes à taille humaine, donc vous vivez des aventures humaines tous les jours, heureuses ou malheureuses, mais il y a de l'émotion, il se passe des choses. Et puis, par ailleurs, je crois que les valeurs des sociétés modernes correspondent aux valeurs des PME. Les proximités, effectivement, c'est vraiment clé. Et aujourd'hui, regardez le succès de cette nouvelle économie qu'on appelle économie circulaire, dont la vocation est de limiter les temps de transport, de limiter les déchets, de faire en sorte qu'il y ait des réseaux de partenariats assez étroits qui puissent se concrétiser. Ça, c'est un modèle d'économie dans lequel la PME, très naturellement, peut s'épanouir. C'est une des raisons qui fait que je pense que la PME a vraiment de l'avenir.
Mais on n'a pas l'impression que la PME soit forcément toujours le siège des valeurs progressistes. Si on se souvient du quota d'hommes hein, qui dirige les entreprises, vous qui plaidez pour une égalité notamment des salaires et des chances, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. La PME est peut-être porteuse d'avenir, mais ne l'incarne pas forcément.
Vous savez, sur la question que vous venez de soulever, l'égalité homme-femme, peut-être que la PME n'est pas toujours exemplaire, mais la grande entreprise, il y a encore du travail. Alors, l'affichage de la grande entreprise a changé. La grande entreprise sait qu'elle est obligée d'afficher une politique égalitaire, et puis d'afficher des valeurs de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça semble un peu plus visible du côté de la grande entreprise.
Et vous en connaissez,
moi, je connais.
Vous en connaissez quelque chose, hein, puisque vous siégez encore d'ailleurs dans les conseils d'administration de BNP Paribas, Grande Banque s'il en est, et d'EDF, qui sont des mastodontes dans leur secteur. Comment vous y faites entendre cette fameuse voix des PME?
Mais justement, vous avez tout à fait raison, je demande sans cesse dans les conseils d'administration des grandes entreprises dans lesquelles je siège, d'avoir une attitude responsable et éthique à l'égard des PME. Parce que souvent, quand vous êtes le patron d'un immense groupe, vous regardez les choses d'une manière très macroéconomique. Vous regardez des colonnes de chiffres, vous allez d'une capitale à une autre et vous faites le tour de la planète et vous oubliez les dimensions humaines. Et il est indispensable que dans les engagements des grandes entreprises, les engagements de responsabilité sociale et environnementale, il y ait une attitude spécifique à avoir à l'égard de la PME. D'autant que moi, je crois que la PME, c'est non seulement les tissus de nos territoires, c'est en Suisse comme en France, imaginez nos pays sans PME. Enfin, ce serait d'une tristesse absolue s'il n'y avait plus que des grands groupes.
Eh bien, on retient votre constat et en espérant qu'il ne se réalise pas. Tout à fait. Laurence Parisot, merci d'avoir partagé votre credo, on peut l'appeler comme ça, en faveur des PME, en espérant bien sûr que vos mots touchent toute personne qui serait désireuse de se lancer dans l'aventure. Il en va de l'avenir de notre économie. Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, merci d'être passée dans Place Publique.
Merci.
Encore nos excuses pour les quelques ennuis techniques, mais je crois que nous ne nous y sommes pas pour grand-chose. Et puis, bonne suite à vous, bel été.
Et permettez-moi de dire qu'il faut tout faire pour renforcer la coopération économique entre la Suisse et la France.
Et bien, voilà le message qui est passé, en espérant que nos gouvernements nous écoutent. Et j'en suis même certain.
Voilà.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Place Publique.